Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International, l'émission réalisée sur l'antenne de TV5 Monde en liaison avec Radio France Internationale et le quotidien Le Monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aide française à la coopération, comme on dit autrefois, au développement, comme on dit aujourd'hui. Nous allons parler d'Ebola, de la francophonie et de la vie politique française. Nous recevons Madame Annick Girardin, secrétaire d'État donc au développement et à la francophonie. Merci Madame d'être avec nous. Nous allons vous interviewer en compagnie de Sophie Malibaud de Radio France Internationale et de Nicolas Chapuis du quotidien Le Monde. Beaucoup de raisons pour vous accueillir. Vous êtes assez singulière dans la vie politique française. La seule ministre originaire de ce territoire que l'on va voir aux confins des Amériques du Nord, Saint-Pierre et Miquelon. Aucun ministre avant vous du gouvernement français ne venait de ce lointain territoire. Vous nous direz s'il y a de ce fait un regard différent sur le portefeuille qui est le vôtre. Et puis nous allons parler de l'aide au développement, de l'aide de la France au développement. La France qui est un acteur important dans ce domaine, mais un acteur dont la contribution est en légère érosion. Je vous propose, avant de vous entendre, de faire un gros plan précisément sur cet effort au développement et à la coopération.
La coopération française a désigné 16 pays africains comme prioritaires. Avec un budget annuel d'environ 10 milliards d'euros, la France est le quatrième contributeur mondial après les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Pendant la campagne électorale, sur le plateau de TV5, le candidat socialiste reste prudent.
Bon, chacun connaît nos contraintes budgétaires, donc je ne vais pas ici promettre que nous allons atteindre les 0,7% du PIB que chaque candidat, à un moment ou à un autre, a pu proclamer ces 20 dernières années, sans l'atteindre. Mm-hmm. Donc mieux vaut que nous ayons effectivement quelques marges budgétaires, mais surtout des ressources fiscales au plan international que nous pourrions mobiliser pour l'aide au développement.
0,7%, le rêve préconisé par les Nations Unies. La France en est encore loin. Elle consacre à la coopération à peine la moitié, 0,37% de son revenu national brut. Sous la présidence de François Hollande, l'aide au développement aura globalement baissé de 20%. Malgré cette baisse, Paris fait face aux situations d'urgence. Pour contrer l'épidémie d'Ebola, la France ouvre un centre de traitement en Guinée forestière, épicentre de la maladie. Une clinique comme celle-ci, gérée par la Croix-Rouge française avec une cinquantaine de lits. Pendant 9 mois, des équipes soignantes guinéennes et françaises se relaieront au chevet des victimes d'Ebola. La Guinée est le troisième pays le plus touché par la maladie. D'après l'OMS, Ebola a déjà tué plus de 4000 personnes dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Guinée, on vient de voir ce dispensaire où vous êtes allé, où vous êtes rendu et où vous allez retourner. Nous allons parler de l'effort de la France pour lutter contre cette pandémie. Bon, tout d'abord, commentons le chiffre. Un effort financier qui baisse, et c'est pas impopulaire en France. On peut se rendre compte que si les allocations familiales viennent à être érodées, revues, il y a des mobilisations, on en parle. Là, on a l'impression qu'on peut on peut baisser le budget donc de cette coopération, de cette aide au développement, dans l'indifférence des Français.
Alors, d'abord, vous dire que aujourd'hui, on est devant un tel défi en matière de développement qu'il faut poser la difficulté. Les États seuls ne pourront pas répondre au défi du développement. Il faudra donc travailler autrement. Ça ne veut pas dire sacrifier l'APD, l'aide au développement. Ça veut dire l'utiliser comme levier. François Hollande souhaité que l'objectif 0,7 soit maintenu. Cet objectif 0,7, il est dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Et nous avons dit qu'on retournera vers cette direction dès qu'on pourra le faire, parce que la France aura retrouvé le chemin de la croissance. On ne peut pas dire aux Français que ce budget de la solidarité et de l'aide internationale ne fera pas un effort alors qu'on leur demande de se serrer la ceinture, alors qu'on connaît aujourd'hui les chiffres de chômage, alors qu'on voit la situation effectivement en France. Chaque budget a été appelé à faire un effort. Ce budget a fait son effort, son juste effort. Rien n'est sacrifié. Le budget du développement et de la solidarité n'est pas sacrifié. Le cœur de métier où le cœur de l'action est encore là, c'est-à-dire le soutien aux pays les plus défavorisés, les 16 pays prioritaires, sans se détourner des autres, mais sous différentes formes.
Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de sanctuariser ce budget pour l'aide au développement, sachant que déjà la proportion de fonds détournés vers l'Afrique est assez minime par rapport au budget total de la France? Donc est-ce qu'il n'y avait pas moyen de sanctuariser? On voit bien la Grande-Bretagne, par exemple, elle y arrive maintenant, en pleine crise crise, malgré la crise, elle arrive au 0,7% de revenu national pour
Alors
le développement.
C'est effectivement un souhait des ONG, un souhait de certains parlementaires. Je l'ai dit en ouvrant effectivement ce débat, ce n'est pas la solution qui a été choisie en ce qui nous concerne. La France n'a pas à rougir de son aide et nous déployons aussi un certain nombre d'énergies pour travailler avec les autres partenaires du développement, que sont les collectivités territoriales, les ONG, que je voudrais d'ailleurs remercier également. Les collectivités
et qui critiquent cette baisse de budget.
Qui critiquent, c'est normal, c'est leur rôle. Mm-hmm. C'est-à-dire que le rôle des associations, le rôle des ONG, c'est de bousculer un peu le gouvernement pour que les sacrifices n'aillent pas trop loin. Nous avons effectivement fait une réduction, et je le redis, ce n'est pas un sacrifice, et l'aide n'est pas aujourd'hui, comme certains ont pu le dire, pas à la hauteur de ce que l'on peut faire et de ce que l'on s'est donné comme programmation dans la loi sur le développement qui a été votée en juillet. On aimerait, j'aimerais avoir effectivement un budget plus important. Mais il faut aussi être responsable et réaliste, ça c'est ce que je suis. Et on a fait des choix géographiques, des choix sur les pays les plus vulnérables, des choix de soutenir autrement les autres pays, notamment par des prêts AFD qui sont quelquefois bonifiés ou pas bonifiés du tout, donc qui ne coûtent rien à l'État.
Ça fait 4 ans que ça baisse, ça va continuer à baisser. Il n'y a pas un moment où il faut mettre un terme, parce qu'à la limite ça deviendra complètement... invisible, l'argent de l'aide publique au développement.
Alors vous savez, c'est pas qu'une question qui se pose en France. Je reviens de New York ou de Washington où il a été question effectivement de ce débat sur l'APD. L'APD doit rester le levier. L'aide publique au développement doit rester le levier principal des financements qu'on va pouvoir réunir et rassembler pour faire face aux grands défis du développement, les objectifs de développement durable qui sont aujourd'hui travaillés pour être décidés d'ici la fin de d'ici le milieu de l'année 2015, montre que le défi est tel qu'il va nous falloir travailler État, ONG, entreprises, banques du développement, ensemble. Il faut travailler sur les financements innovants, c'est ce que fait la France avec la TTF, la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les billets d'avion. Nous réfléchissons aujourd'hui à une loterie solidaire. Nous travaillons aussi sur le don par SMS. Il nous faut nous mobiliser, être inventifs. Il faut anticiper. Parce que demain, on ne pourra pas répondre de la même manière qu'aujourd'hui, mais véritablement redire, et il faut le redire, et les ONG ont raison de le réaffirmer, l'APD doit être le levier principal de l'aide au développement de demain.
Nicolas Chapuis, Le Monde.
Vous dites aujourd'hui que si la croissance repart, ce budget sera revu à la hausse. Vous avez obtenu des garanties d'ici 2017, si la croissance est effectivement un peu de retour, d'avoir une augmentation ?
Déjà sur la TTF, regardez, nous sommes partis de 10% de la TTF orientée vers le développement.
Taxe
sur les transactions financières. Nous en sommes aujourd'hui à 25. C'est François Hollande, c'est la gauche qui met effectivement en place cette taxe sur les transactions financières dont on parlait déjà depuis un certain nombre d'années. Donc il faut s'en féliciter. Et je vous disais qu'on travaille aussi sur d'autres financements innovants et la trajectoire des 0,7 sera reprise dès qu'on pourra le faire. C'est un engagement. François Hollande a pris d'autres engagements. Le doublement des aides aux ONG d'ici 2017. C'est ce quelque chose, une trajectoire sur laquelle on est et on répond à ça. C'est aussi 20 milliards d'euros pour les pays africains les plus défavorisés. C'est aussi ce que l'on fait aujourd'hui. On est sur cette même trajectoire.
Je reviens sur la terminologie de votre portefeuille ministériel, donc développement, aide au développement. Est-ce que c'est pour n'avoir plus à dire, comme autrefois, coopération, même si on vous appelle toujours parfois ministre de la coopération, parce qu'il y avait une connotation un peu France-Afrique, parlons clair, un peu magouille, intrigue, lien un peu sulfureux entre la France et les pays africains.
Alors la coopération, c'est pas un gros mot, mais c'est vrai que ça représentait un peu tout ce que vous venez de dire. On a voulu effectivement que la France-Afrique soit quelque chose qui soit derrière nous et de travailler différemment avec nos pays partenaires. C'est derrière nous. C'est inscrit dans la loi sur le développement de juillet dernier. La France-Afrique, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est des partenaires. Et l'idée du développement porte effectivement et porteur de sens. On a bien un objectif commun, c'est le développement des pays qui sont aujourd'hui nos partenaires. Bien sûr qu'on fait de la coopération pour y arriver, mais l'objectif, c'est du développement. L'objectif, c'est de travailler en partenariat et que chacun y gagne.
Mais pourquoi la personne qui est en charge maintenant du développement et de la coopération, donc, n'a plus rang de ministre ? C'est pas un signal un petit peu... En même temps que l'aide diminue, finalement, vous êtes secrétaire d'État, il n'y a plus de...
Alors, vous savez, entre secrétaire d'État ou ministre délégué, ce qui était mon prédécesseur Pascal Canfin, à qui je veux rendre hommage aujourd'hui, puisque la loi sur le développement, c'est lui qui l'a initiée à la demande de François Hollande. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, peu m'importe le titre. L'idée, c'est d'être dans l'action et de répondre effectivement aux besoins. Peu importe le titre. Et puis, à côté du développement, j'ai aussi la mission du développement de la francophonie. Et honnêtement, les deux se rejoignent, même si les ONG ont été un peu inquiètes au départ sur cette question.
Et vous vous occupez également du climat. Il y a plusieurs ministères qui vont s'occuper de cette... puisque la France va donc accueillir le sommet pour contre le risque de réchauffement...
Fin 2015.
Contre le réchauffement climatique. On a l'impression que cette question-là, elle prend le pas quasiment sur l'objectif de développement. Est-ce que c'est le moment pour les pays maintenant qui sont en train de souffrir, qui sont confrontés à l'immédiat, à l'urgence du côté de la pauvreté, est-ce que c'est le moment d'entonner cette grande marche vers la réduction du climat? Comment est-ce que ça peut être audible de leur côté?
Alors, vous savez, très très vite en arrivant, puisque le climat, c'est pas quelque chose que j'avais vu tout de suite dans les attributions que j'aurais en prenant ce secrétariat d'État, très très vite, et il n'y a pas que moi, on dit aujourd'hui, et c'est vrai, dans les faits, j'ai pu le constater, et je vous parlerai de certaines expériences, la lutte contre la pauvreté va de pair avec la lutte contre le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est quoi? C'est la montée des eaux. Quand on va au sommet des petits États insulaires et qu'on constate qu'un certain nombre de gens ont déjà les pieds dans l'eau et que leurs îles peuvent effectivement risquer dans certains cas de disparaître, on voit bien que l'urgence, elle est là, mais qu'on est aussi sur des pays en développement. Et quelquefois, notamment sur l'Afrique, on est aussi sur des pays francophones. Donc moi, je suis très à l'aise avec les trois parties de mon portefeuille. La question du climat, c'est une vraie question. Le dérèglement climatique doit totalement être pris en compte aujourd'hui dans toute la politique de développement. Si on ne la prend pas en compte, c'est un siècle de développement ou de soutien au développement qui va être réduit à néant. C'est-à-dire que si on parle de la sécheresse, si on parle de la montée des eaux, si on parle petit à petit de la perte des côtes que l'on a, on voit bien que sont toujours toucher les pays les plus vulnérables, même si la France est également touchée.
On peut parler de l'Afrique qui a la double peine, hein, qui ne contribue pas à ce réchauffement climatique, mais qui en est directement impacté. Les Européens viennent de se mettre d'accord pour baisser d'ici à 2030 de 40% les gaz à effet de serre. L'Afrique subit à nouveau très très directement ça, ces méfaits du réchauffement climatique.
Alors il faut déjà se réjouir de la position que viennent de prendre les Européens. Ouais. Il était important pour la France, il est important pour les Européens qu'on prenne ce type de décision, qu'on ait effectivement des ambitions, qu'on soit courageux dans les mesures que l'on va prendre, tout simplement parce que on va porter Paris Climat 2015, donc en décembre 2015, et il est important d'être exemplaire. Ensuite, c'est vrai, quand on va en Afrique, quand on va sur les petites îles, on se rend bien compte que les effets sont déjà là et que ce sont les moins pollueurs aujourd'hui et qu'il nous faut programmer dans toutes nos missions de développement tenir compte de l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi? Par exemple, à Samoa, c'est de dire on va délocaliser un village, mais suffisamment haut pour que demain, ce qui est arrivé déjà dans deux fois dans les générations passées, on n'ait pas à redéplacer un village. La France a ce type d'initiative. La France, vous savez, avec ses outre-mer, mais aussi ses côtes françaises, est très
deuxième
à la pointe,
maritime.
Deuxième domaine maritime au monde, après les États-Unis, est à la pointe d'un certain nombre d'expérimentations et de technicité, notamment avec nos entreprises, qui peuvent répondre à toutes ces difficultés aujourd'hui. On doit être aux côtés des petits États insulaires, on doit être aux côtés de l'Afrique. On a expérimenté un certain nombre de choses. Et je crois qu'on sera en bonne position pour être des médiateurs dans cette année de négociation en 2015.
Nicolas Chapuis.
Vous étiez à New York, où vous avez rencontré vos partenaires. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'avec la Chine qui a le pied sur le frein, les États-Unis pareil, est-ce que les conditions sont réunies pour avoir ce grand accord en France en 2015 dont rêvent beaucoup de pays sur le climat?
Alors, il est clair qu'on veut tous, enfin du moins la France veut, et on a plusieurs partenaires, notamment effectivement l'Europe, mais d'autres pays, on veut un accord ambitieux. On veut un accord universel. On veut aussi un accord qui prépare ou qui présente les solutions.
Mais vous avez senti que les autres étaient prêts à cet accord?
Alors, à New York, on voit la dynamique, c'est-à-dire qu'on la sent dans les discours des chefs d'État ou de gouvernement qui sont présents. On sent bien d'ailleurs qu'un certain nombre de discours que la France porte depuis longtemps, notamment sur l'adaptation, c'est-à-dire et qui est dans la loi de juillet 2014, prévoyant déjà dans tous nos projets de soutien au développement la question de l'adaptation au réchauffement climatique. On voit là le président des États-Unis, donc Obama, reprendre ce discours, dire l'adaptation doit immédiatement être dans les faits pour les pays comme pour les soutiens qu'on peut amener à l'international aux pays en développement. On voit que ce discours avance, on voit que les lignes ont bougé du côté des États-Unis comme du côté de la Chine. Alors pas suffisamment à la hauteur de ce qu'on voudrait. Mais je crois que l'erreur de Copenhague, ça a été que certains pays décident ou ont voulu décider pour tous les autres. La France souhaite aujourd'hui, et nous sommes trois ministres aujourd'hui au travail, souhaite rencontrer l'ensemble des pays et que chacun ait sa place dans ce débat et que chacun puisse effectivement avoir un rôle dans ces propositions. Et je rappelle que c'est très important le volet agenda des solutions, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement quelles sont les réponses qu'on peut apporter, parce que les citoyens et les pays en développement attendent cette réponse. L'autre réponse qu'attendent les pays en développement, et là encore New York a été un grand moment, c'est le fonds vert et la capitalisation du fonds vert. Le fonds vert qui va être consacré à 50% pour les pays les plus défavorisés, sur l'adaptation notamment, où la France a fait une annonce donc d'un milliard de dollars, rejoint par l'Allemagne, et où on voit maintenant qu'il y a une dynamique qui a été créée. Nous devons réussir à atteindre les 10 milliards d'euros de manière à donner confiance
à nos pays partenaires. Ce milliard d'euros qu'on va mettre dans le fonds vert, est-ce qu'on sait déjà comment est-ce qu'il va être financé aujourd'hui? Parce qu'il y a un doute sur
Bien sûr, il est identifié. Nous avons effectivement une partie sur la TTF, d'accord, la taxe, je redis, la taxe sur les transactions financières, et l'autre partie budgétaire.
C'est donc de l'argent qui échappe à l'urgence, à la priorité du développement.
C'est de l'argent qui est mis effectivement en faveur du développement, puisque la question du climat et du fonds vert rejoint effectivement le développement et du plus long terme. Et là, on montre aussi que pour arriver à l'échéance qui a été souhaitée à Copenhague de arriver aux 100 milliards, au-delà des 10 milliards, aux 100 milliards de promis à Copenhague, il nous faudra travailler avec tous les acteurs. Et j'en reviens à la question du développement tout à l'heure. On voit bien que le développement et la question du climat se rejoignent et que ce grand défi, on ne pourra le relever que si nous sommes unis, l'ensemble des pays bien sûr, mais les ONG, je le redis, les entreprises, l'ensemble du privé.
Ce sont on comprend que ces questions à long terme se rejoignent, mais pour l'instant, il y a tout de même un problème d'urgence. Par exemple, dans la bande sahélo-saharienne en Afrique, il y a un problème d'urgence. Il y a le djihadisme, des groupes djihadistes qui progressent sur fond d'appauvrissement de ces pays, d'appauvrissement gravissime, sur le problème des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, sur le problème de la nutrition, des problèmes des conditions de survie extrêmement difficiles. Et on voit bien le problème des systèmes de santé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de priorité face à l'urgence?
Il n'y a pas un problème de priorité, il y a un problème de levier insuffisamment fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, on peut constater, et même si la France avait un budget APD à la hauteur des 0,7, et même si d'autres avaient, on ne peut pas répondre aujourd'hui de cette manière-là, et que de cette manière-là, aux enjeux qui sont devant nous pour la lutte contre la pauvreté, et notamment aussi du dérèglement climatique, et qui font, et vous avez raison, qui permettent effectivement aux djihadistes, au terrorisme,
de prospérer.
Sur place. La France, je vous le rappelle, est quand même très présente dans toute la bande du Sahel et répond aux urgences et travaille déjà sur le développement. Je me suis rendue au Mali, je me suis rendue dans un certain nombre des pays du Sahel et on voit bien que la France, elle est active. Mm-hmm. Elle ne peut pas faire seule et même sûr. Elle ne pourra pas faire sans un certain nombre de partenaires le multi-classique que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est-à-dire travailler avec d'autres pays ou travailler avec la Commission européenne. Il faut de nouveaux acteurs pour agir de manière plus forte sur le terrain.
Vous dites,
et c'est ce que
pas.
Je fais, c'est je me mobilise pour ces questions-là, c'est-à-dire d'anticiper les solutions et de préparer l'avenir.
Vous dites on ne peut pas. On voit bien, par exemple, pour la lutte contre Ebola, maintenant on est en train de trouver un vaccin éventuellement. Jusque-là, l'épidémie a eu plusieurs récurrences, jamais on n'a trouvé. Maintenant, il y a une urgence, on trouve. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est une question de priorité et qu'il faudrait décider peut-être d'aller là où l'urgence...
Alors, l'urgence Ebola est là et on peut se féliciter aujourd'hui, et vous le voyez bien, de l'implication, même si elle peut être tardive, et vous avez raison de éventuellement le dire, même si elle peut être tardive, la mobilisation aujourd'hui, elle est là. Alors, elle est là peut-être trop encore financièrement, comme quoi c'est pas toujours une problématique liée aux moyens financiers, et que Ebola, ce ne sait pas qu'avec des billets de banque qu'on va lutter contre Ebola, c'est bien par une mobilisation sur le terrain. Et ce que fait la France là en ce moment, c'est de dire passons à l'action, allons sur le terrain, ouvrant les centres de traitement, c'est ça le plus important.
Annick Girardin, on reparle d'Ebola dans un instant, après ce point d'information sur les antennes de RFI et de TV5. Mandat tout de suite. Retour à l'international avec TV5 Monde, Radio France Internationale, émission que nous réalisons avec le quotidien français Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Nous parlions juste avant cette pause, Madame, d'Ebola. On a le sentiment d'une très grande inquiétude, évidemment, c'est pas le sentiment d'ailleurs, une très grande inquiétude mondiale. Vous êtes allé sur place, vous allez y retourner. Quel est la proportion à faire entre cette panique et la réalité du danger? Vous allez sur place, vous y travaillez, on peut y aller donc?
Alors, écoutez, je me suis rendue sur place à la demande effectivement du gouvernement et du président François Hollande pour exprimer la solidarité de la France à la Guinée, mais pas seulement, parce que c'est aussi de notre responsabilité d'agir aujourd'hui en Guinée en ce qui concerne la France, d'agir sur l'ensemble des trois pays, mais d'agir en Guinée pour ce qui concerne la France et dans la sous-région, parce que c'est la meilleure manière de lutter contre Ebola et la meilleure manière d'éviter aussi que ce virus puisse se répandre à la fois sur l'Europe ou plus largement sur la région en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire renforcer pour le moyen terme et le plus long terme les systèmes de santé, parce qu'on voit que le problème il vient de là, des systèmes de santé tellement fragiles et très défaillants qui n'ont pas pu lutter contre effectivement ce virus, contrairement au Sénégal où on a vu effectivement qu'il y avait un cas et qui a été traité et guéri, tant mieux. La Côte d'Ivoire que nous soutenons et qui est aujourd'hui prête il y avait malheureusement un cas qui devait se développer en Côte d'Ivoire, on voit bien que les systèmes de santé c'est vraiment la vraie garantie. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas non plus, il faut être prudent. Il faut être responsable, mais il ne faut pas paniquer. C'est-à-dire que ce soit en Guinée ou que ce soit effectivement aujourd'hui en Europe, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter. La rumeur est absolument horrible. Moi, je voudrais dire qu'il y a des gens très courageux effectivement en Guinée. Et je pense aux enseignants français qui ont ouvert le lycée français à Conakry, à la rentrée scolaire, on va dire normalement, sinon que, effectivement, un certain nombre de protections ont été mises dans le fonctionnement de cette école. Donc je ne dis pas qu'on peut aller en Guinée parce que ce n'est pas le moment d'aller prendre des risques, mais pour des obligations, on peut y aller. Et la France n'a pas aujourd'hui rapatrié ses ressortissants parce qu'on peut vivre en Guinée en étant et en prenant des précautions. Après, soyons raisonnables, les soignants qui rentrent effectivement en Europe ou ailleurs, ceux qui sont allés en Guinée doivent aussi prendre un certain nombre de précautions et être responsables pour éviter, si jamais ils devaient être porteurs du virus, de contaminer d'autres personnes.
Quand on apprend qu'il y a un cas, une petite fille qui est décédée au Mali et donc des dizaines de personnes qui sont mises en quarantaine, aussi bien à Kaï dans la région où elle est morte, que dans la capitale même, à ce moment-là, quelle est la réponse? Est-ce qu'il y a une réponse de la part des Français? Est-ce qu'il y a une action qui est engagée dans l'urgence pour aider? Parce que c'est un pays qui est exsangue économiquement, le Mali.
Oui, sauf que le Mali s'est malgré tout préparé. Le Mali s'est préparé à agir en cas, effectivement, chez lui. La France, vous savez, agit dans toute la région. Nous sommes aux côtés des Maliens. Mais nous avons là une action forte qui est dirigée vers la Guinée. Et je crois que l'important, c'est de dire qu'on est dans la phase de concrétisation. La phase de concrétisation, elle est urgente aujourd'hui. Vous l'avez vu, je l'ai dit dans l'autre partie, la mobilisation financière est là. La mobilisation européenne, la mobilisation internationale, la mobilisation française, elle est là. Maintenant, il faut aller au-delà des billets, il faut ouvrir ces centres. En Guinée, il nous faut effectivement ouvrir, la Guinée a besoin de 10 centres en tout. Nous allons sans doute pouvoir arriver à 7 grâce effectivement à Médecins Sans Frontières, notamment à la France, et nous cherchons des partenaires pour en ouvrir davantage. François Hollande a fait un certain nombre d'annonces, annonçant effectivement l'ouverture du centre en Guinée forestière dans les 15 jours qui viennent, avant la fin du mois de novembre. Et c'est important parce que c'est là l'épicentre, c'est là qu'il faut intervenir rapidement. Nous allons ouvrir deux autres centres avec notamment la Croix-Rouge et d'autres partenaires. Nous allons ouvrir aussi, et c'est important, un centre spécifiquement réservé aux soignants volontaires nationaux. Et ce qui est important aussi en réponse, parce que ça m'a été demandé quand j'étais sur place par Médecins Sans Frontières, c'est la mise en place d'un système européen de rapatriement sanitaire des soignants internationaux intervenant notamment en Guinée, mais bien au-delà.
Juste pour terminer sur le Mali, vous estimez donc que le pays est en mesure de faire face au cas où il y ait eu contamination ?
Alors, les premières réponses que l'on a, c'est que le Mali s'est mobilisé. Vous avez entendu les premières annonces. Le Mali s'est préparé à cela. Si le Mali a effectivement un certain nombre de difficultés, la France est déjà à ses côtés, comme d'ailleurs d'autres pays, puisque nous sommes aujourd'hui auprès du Mali, engagés sur la voie du développement, au-delà de la solution politique qui doit également être apportée. Nous sommes sur le volet développement et nous renforcerons effectivement nos actions si le Mali le souhaitait. Vous savez, la France intervient auprès de tous ses partenaires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à la demande des partenaires qui ont mis en place un certain nombre de schémas, notamment là de lutte contre Ebola, et nous sommes à leur côté.
Alors, vous êtes également en charge, Madame Girardin, vous êtes également en charge de la francophonie. On voit généralement la dimension culturelle, linguistique, elle va au-delà. Il y a dans à peine un mois, à Dakar, le sommet de la francophonie avec une intégration qui, pour succéder, et ce ne sera pas facile, à Abdou Diouf, l'actuel secrétaire général de la francophonie, plusieurs candidats. On voudrait vous demander qui la France soutient aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, la France ne soutient aucun candidat. La France n'a pas de candidat, d'abord.
Voilà.
C'est la première chose. Ensuite, le président Hollande participera effectivement au sommet des chefs d'État et c'est une décision qui appartient aux différents chefs d'État. Aujourd'hui, la France n'a pas de position arrêtée. D'un autre côté, moi j'ai trouvé très intéressant... Je n'étais pas là sur ces questions-là avant, mais quand je regarde comment se sont passées les autres nominations, on voit bien qu'il n'y a pas eu cet élan de campagne, ces candidats qui font le tour des différents pays, qui ont un programme. Je crois que c'est important de laisser le débat aller jusqu'au bout. Il y a aujourd'hui 5 candidats. Il faut effectivement que tout ça aille jusqu'au bout sans effectivement qu'on vienne... L'idée de la France, c'est quand même de souhaiter, le président Hollande l'a souhaité, que... les 2 semaines qui vont précéder le sommet, puissent être réservées à ce consensus qui pourrait être trouvé.
Il y aura un consensus avant le sommet.
Ce serait souhaitable. Ouais. On ne peut pas l'affirmer. Nous sommes 77. La France, c'est une voix. Il y a le souhait, effectivement, d'avoir un consensus avant le sommet, de manière à ce qu'au sommet, au-delà du choix du futur secrétaire général de l'OIF, il y ait aussi une feuille de route de ce futur secrétaire général.
Ouais, pour faire quoi ?
Je crois que c'est important.
C'est ça. Et la francophonie, qui est parfois présentée comme un espace un peu institutionnel, peut être un acteur diplomatique plus important, intervenir sur la gouvernance. Par exemple, de certains de ses membres qui prolongent indéfiniment leur mandat, etc. Ça peut aussi être ça, la francophonie ?
La francophonie, c'est déjà un peu ça. C'est ce qu'Abdou Diouf a mis en place. C'est-à-dire la lutte pour la paix, le volet démocratique, l'intervention. Abdou Diouf a travaillé sur un certain nombre de résolutions, de conflits en Afrique aujourd'hui. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut rajouter aussi une autre dimension qui sera débattue à Dakar, le volet économique de la francophonie.
Oui, pour revenir à ce qui est de la campagne, vous êtes favorable, vous trouvez que c'est bien, mais le moment d'une campagne, c'est le moment d'un débat. Alors, en principe, dans les campagnes politiques, les gens prennent position. Là, pourquoi se refuser de prendre position ?
Alors, il s'agit pour le choix d'un consensus entre les différents États. La France prendra une position. Bien sûr que la France donnera son avis à un moment donné. Mais pas avant que la campagne soit terminée, pas avant que chaque candidat ait fait le tour, pas avant qu'il y ait déjà, on va dire... une discussion entre les différents chefs d'État africains qui sont les plus nombreux dans l'OIF et qui, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, un ressortissant de l'Afrique du Sud, à la tête de l'OIF.
Justement, vous
c'est quelque
n'en
chose
pas,
qui
madame.
Peut changer, mais c'est quelque chose qui se discute.
Madame Girardin, vous venez d'une terre, je le disais tout à l'heure, d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça change sur votre vision de la francophonie ? Vous êtes relativement près par rapport à Paris, du Québec, de ces terres qui luttent pour la survie de la langue française. Ça change quelque chose sur votre façon de voir cette francophonie ?
Alors, j'ai tendance... à dire, mais c'est toujours pas toujours bien compris, que pour moi, la francophonie, elle est plurielle. C'est-à-dire que cette francophonie, cette défense de la langue française, c'est aussi l'arrivée de nouvelles cultures, de nouvelles générations, avec une francophonie différente, qui véhicule des messages culturels différents et qu'il faut absolument prendre en compte. La francophone d'Amérique du Nord, que je suis, a lutté à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans son territoire, face au continent nord-américain à côté, où la langue anglaise est la plus parlée. On a, nous, une coopération régionale avec les provinces atlantiques du Canada, où la plupart sont anglophones. Mmh. Donc nous sommes un peu les Gaulois d'Amérique du Nord, et fiers de l'être avec nos voisins québécois qui sont un peu plus loin. Mais c'est véritablement une chance, et une chance aussi pour tout ce qui est médias, je souhaiterais également le dire, c'est-à-dire qu'à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon, à partir de l'ensemble des Outre-mer, puisque la France est présente dans tous les bassins maritimes, et à travers les médias qui sont présents dans ces Outre-mer, nous pouvons avoir une action beaucoup plus forte en direction des différents pays francophones, mais au-delà. Et vous avez aussi votre rôle ici à jouer en direction de l'Afrique, parce que les médias, pour moi, les nouvelles technologies sont véritablement des forces pour faire progresser la francophonie. Nous avons un potentiel de 700 millions de locuteurs en 2050. Il faut absolument y répondre, et on va y répondre parce qu'on va miser sur l'éducation et on va développer nos médias.
Nicolas Chapuis.
Quand vous dites que vous voulez développer un volet économique de la francophonie, est-ce que vous pouvez développer, c'est-à-dire la création d'un espace économique privilégié, qu'est-ce que vous mettez dans ce volet économique?
Alors vous savez, quand on souhaite parler la langue française, c'est pour ses valeurs, c'est pour sa culture, c'est pour sa gastronomie, enfin l'image de la gastronomie qu'il y a derrière, mais c'est aussi parce qu'on peut trouver un emploi demain grâce à la langue française. Quand on dit aujourd'hui à un certain nombre de jeunes d'Afrique que c'est une plus-value de parler français, il faut pouvoir lui répondre qu'en termes d'emploi, ça va aussi être une plus-value. Et pour ça, il nous faut travailler avec les entreprises françaises, les associer au volet francophonie, faire un vrai réseau économique pour faire en sorte que tous ces jeunes qui souhaiteront parler la langue française aient une plus-value quand ils cherchent un emploi. Je crois que c'est important de le dire comme ça. C'est ça l'objectif qui est le mien.
Sophie Malibo.
Justement, donc la jeunesse, c'est un thème qui vous est cher. Est-ce que vous avez entendu des choses intéressantes dans les programmes des différents candidats, ici et là?
Oui, tout à fait. Chacun a pris conscience, que ce soit effectivement la candidate du Nord ou que ce soit les candidats du Sud, de l'importance de cette jeunesse avec la démographie africaine qui est explosive. Et demain, on a effectivement une jeunesse qui demande à trouver sa place. Soit on lui répond en matière d'éducation, de formation professionnelle, d'emploi, soit cette jeunesse, qui peut être une chance extraordinaire pour l'Afrique et pour la francophonie, devient une difficulté. Et là aussi, mon rôle est d'anticiper et de travailler sur des réformes, y compris une réorientation de l'OIF, et c'est ce qui sera décidé effectivement ou orienté à Dakar, au sommet de Dakar. Ça fait déjà 2 ans que l'OIF travaille sur cette question de l'économie et de la francophonie, avec notamment le thème de la femme et les jeunes acteurs de développement. Donc on voit bien que tout se rejoint, y compris avec la politique de développement. Et on voit bien aujourd'hui qu'on va faire face à des exigences différentes d'un monde qui est en mouvement. La francophonie doit être en mouvement. La francophonie est une chance si on est suffisamment dynamique.
Mais vous avez entendu des idées novatrices? Est-ce que vous auriez un exemple au lieu d'être dans l'incantation, parce qu'on est dans l'incantation,
non, mais écoutez,
sur les jeunes et les femmes, on est dans l'incantation depuis longtemps.
Le processus ou l'objectif des 100 000 professeurs pour l'Afrique qui a été mis en place, et qui va se concrétiser, et les annonces seront faites sur les différents outils à Dakar au sommet de la francophonie, c'est une première réponse. Comment soutenir la formation des maîtres ou la formation des enseignants en Afrique à distance? Comment utiliser de nouvelles technologies? Comment effectivement revoir notre manière de voir l'éducation? Comment organiser des réseaux avec les universités? Oui, il y a beaucoup de propositions. Et puis sur le volet économique, il y a eu le rapport Attali qui a été remis également au président de la République il y a très peu de temps, qui aujourd'hui fait partie aussi d'un certain nombre de propositions qui sont moulinées pour, et il y a un volet éducation,
et juste
en moulinées pour apporter une réponse.
Dans le volet éducation, il parle des acteurs privés. Est-ce que vous êtes favorable à ça?
Écoutez, on ne peut pas dire si on est défavorable ou favorable comme ça. Aujourd'hui, le système qui est organisé est quelque chose qui est qui a besoin d'avoir un élan supplémentaire. Et comme les moyens sont pas tous au rendez-vous, puisque nous connaissons les difficultés budgétaires, et même si la France continue à participer et à être le premier financeur de l'OIF, il faut aujourd'hui qu'on ait une action beaucoup plus importante. Donc oui, là aussi, il faut travailler avec le levier privé. De là aller vers un système entièrement privé, c'est une réflexion qu'il nous faut mener au sein de l'OIF.
Alors, Nick Jeannin, il nous reste quelques minutes dans cette émission. Nous n'oublions pas que si vous êtes en charge du développement, on a vu ce que ça recouvrait, et de la francophonie, vous venez de le faire. Vous êtes donc une femme politique, membre de ce gouvernement, vous étiez députée. Vous avez d'ailleurs été la seule à être réélue, c'est la seule victoire, pourrait-on dire, de gauche, depuis l'élection de François Hollande, pratiquement, dans votre fief de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez dû, j'entre pas dans les détails, vous représenter. Est-ce qu'on se sent à l'aise quand on est femme politique dans un gouvernement aussi impopulaire, avec un président de la République qui bat des records lui aussi d'impopularité? Est-ce que ça ne nuit pas à la sérénité de votre boulot?
Écoutez, moi je ne suis pas venue dans ce gouvernement pour être populaire. Je suis venue pour travailler et être au service des Français sur le volet qui est le mien. Ce qui ne m'empêche pas, lors des différentes réunions autour du Premier ministre ou sur d'autres sujets en interministérialité, de débattre de l'ensemble des sujets, puisque on a cette possibilité et il faut s'en réjouir. La situation aujourd'hui, c'est quoi? C'est une France que nous avons découverte dans une situation absolument catastrophique et sans doute une volonté d'aller de l'avant qui, pour l'instant, n'a pas suffisamment apporté ses fruits. Vous savez, le malade, la France était largement malade. Et le remède prend du temps, effectivement, à se mettre en place, ou du moins à apporter ses réponses. On voit, effectivement, les chiffres du chômage aujourd'hui, et on voit bien qu'il nous faut encore davantage nous mobiliser. C'est pour ça que moi, j'en appelle à l'ensemble du gouvernement, mais au-delà, à l'ensemble des forces de gauche, à une mobilisation et à faire front derrière effectivement le gouvernement, parce qu'il y a une véritable réponse. Les Français nous attendent. Ils n'ont aucune envie qu'on leur parle de conflits politiques entre les uns ou les autres ou de petits intérêts de certains, mais bien qu'on leur apporte des réponses concrètes à leurs difficultés.
Ils les attendent. En effet, Nicolas Chapuis, Le Monde.
Annick Girardin, vous parlez justement de conflits politiques. Le Parti radical de gauche auquel vous appartenez, qui fait partie de la coalition gouvernementale, a menacé de quitter le gouvernement il y a moins de deux semaines de ça, et a proposé un protocole d'accord au gouvernement dans lequel il y avait un certain nombre de conditions pour rester dans le gouvernement. Alors déjà, est-ce que vous avez approuvé cette stratégie de l'ultimatum à l'intérieur de votre parti?
Alors vous savez comme beaucoup que je me suis abstenue sur cette idée d'ultimatum. D'un autre côté, cet accord obtenu, je crois qu'il aurait fallu et faudra le faire systématiquement comme le fait l'Allemagne d'ailleurs. Oui, quand il y a plusieurs partis politiques unis dans un gouvernement, et je crois que c'est important parce que ça donne une meilleure lisibilité et ça permet de faire des évaluations en cours de route et de réévaluer.
Vous avez obtenu cet accord ?
Cet accord a été obtenu par ceux qui ont été nommés et qui ont travaillé dans les différentes relations avec le gouvernement et le PS, puisque c'est un accord qui a été négocié. Moi, je trouve aujourd'hui qu'on en a les bases. Il faut maintenant aller au-delà de ces bases et travailler sur des questions qui tiennent à cœur au PRG. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu ce mouvement.
Mais quand on regarde l'accord, quand on regarde la liste des conditions que vous avez fixées et ce que vous avez obtenu à la fin, vous avez obtenu assez peu de choses. Il y a quand même tout un certain nombre de propositions qui ont été balayées par le Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité de la parole du PRG qui menace de quitter le gouvernement et qui, une semaine après, se rétracte?
Non, au contraire, je crois que, et en plus ça a été décidé avec l'ensemble des militants, donc c'est pas le président du PRG, c'est pas que les membres du gouvernement, c'est bien l'ensemble du PRG qui a fait ce choix face à la réponse du Premier ministre. Franchement, moi je crois que c'est le moment de parler de ce que peut apporter le PRG au gouvernement et à la réflexion et au débat. Moi je suis pour le débat. D'ailleurs, c'est là qu'on apporte la richesse, les idées dont on parlait tout à l'heure. Parlons de la fin de vie et de la PPL qui a été la proposition de loi qui a été amenée à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale par les radicaux. Parlons de cette 6e République, travaillons et préparons l'avenir.
Mais typiquement, la fin de vie, vous n'avez obtenu aucune garantie sur le contenu, qu'aurait cette loi avant.
Pas écrit, mais il est signifié qu'il y aura une mission confiée effectivement à des parlementaires radicaux sur un certain nombre de sujets. Il est clair que derrière, ça débouchera effectivement sur des choix que nous allons faire ensemble. L'idée du PRG, c'est de dire comment on est davantage associé en amont des projets de loi. C'est quelque chose qui aujourd'hui est fait et moi je m'en réjouis. Et ça donne encore plus de lisibilité et d'ailleurs plus de légitimité à ma présence aujourd'hui dans le gouvernement et j'en suis satisfaite.
Alors précisément, il y a presque un paradoxe parce que il y a de la part du gouvernement une sorte de tendance, je ne sais pas parler encore de virage, disons social-démocrate ou social-libéral. En gros, c'est plutôt votre offre politique, ça, aux radicaux de gauche, de sentir plus entre le centre et la gauche. Et c'est le moment où il y a eu cet éclat.
Oui, c'est vrai, et on l'a déjà dit. D'ailleurs, vous avez pu le noter, en dehors de cet éclat qui... fait suite à des résultats...
C'est pour exister, ces éclats
non,
habituels.
Pas du tout. Ça fait suite à des résultats électoraux où le PS n'avait pas tenu un certain nombre de ses engagements. Et quelque part, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'il s'agissait quand même aussi du président du PRG, et où il fallait à un moment donné qu'on se remette d'accord sur les bases pour pouvoir continuer à avancer dans un meilleur climat. C'est important, le climat dans lequel on avance. Moi, je plaide pour une équipe France. Et cette équipe France, de la gauche, il faut absolument qu'on la réunisse à nouveau. Alors certes, les dernières orientations ou du moins les projets aujourd'hui économiques du gouvernement, les actions menées par le gouvernement, en tant que radical de gauche, je suis très à l'aise avec ces décisions. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas de difficulté aujourd'hui à être dans ce gouvernement et à continuer à travailler et à mettre en place un certain nombre de réformes souhaitées par le gouvernement.
Sophie Malibeau.
On peut se demander tout de même si ce n'était pas rien qu'une posture, cette menace de quitter le gouvernement, puisque si elle avait été mise à exécution, s'il avait fallu que le PRG se retire. À ce moment-là, il n'y avait plus de majorité. Et quel serait l'avenir donc de...
Alors écoutez, on peut faire toujours des plans sur ce qu'aurait pu arriver, mais cela n'est pas arrivé. Mmh. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le PRG reste fidèle à ses engagements auprès effectivement du gouvernement, de la politique du gouvernement. Nous sommes restés au gouvernement, mais au-delà, il n'y a pas que les trois ministres, ce n'est pas le plus important. Il y a l'ensemble des députés et des sénateurs, il y a la position du PRG, nous sommes donc un parti du gouvernement, et c'est là où...
Le dernier d'ailleurs, vous êtes le seul.
Vous étiez prêt à risquer la dissolution, aller à de nouvelles élections, etc.
Écoutez, il y avait un tel malaise, y compris de la base, qu'il était souhaitable qu'on arrive à cet accord. C'est aujourd'hui chose faite. Il faut s'en féliciter. C'est ce que je fais. Et vous savez, moi, dans cette semaine où il y a eu les pourparlers, j'ai continué à mener mon action et je continue tous les jours.
Alors, quand vous entendez le ministre de l'Emploi, François Rebsamen, reconnaître avec courage, d'ailleurs, et lucidité, qu'il y a un échec sur l'action du gouvernement en matière d'emploi.
Oui, je l'ai entendu, effectivement. Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a sans doute eu tort.
Il faut du temps pour.
Oui, non, mais on a sans doute eu tort de dire aux Français d'où on partait. Quelle était la véritable situation quand la gauche est arrivée, effectivement, quand François Hollande a été élu. Ça, on n'a pas voulu le faire parce qu'on estimait, effectivement, que.
Beaucoup de l'héritage, quoi.
Oui, que l'héritage est lourd.
Ça a été beaucoup dit.
Dernièrement. Mais on avait peur, effectivement, qu'on donne un signe de pessimisme. Et que le gouvernement ne serait pas volontaire. Donc le gouvernement a pris un certain nombre de décisions qui tardent à venir. C'est vrai que sur le volet du chômage et de l'emploi, on n'est pas au rendez-vous. Moi, j'en appelle aussi à l'ensemble des entreprises pour qu'il y ait un véritable résultat beaucoup plus rapide. On entend ce que pourrait être demain le nombre d'emplois créés. Eh bien, allons-y. C'est comme, effectivement, sur un certain nombre de sujets sur lesquels je travaille, de développement ou la question d'Ebola, etc., arrêtant les annonces et passant à l'action. Côté gouvernemental comme côté entreprise.
On a l'impression qu'on est à la mi-quinquennat, que le gouvernement se plaint encore de la situation qu'il a trouvée en 2012. Mais maintenant, on est 2 ans et demi après. Est-ce que ce message-là, il peut encore passer auprès des Français ?
Le gouvernement ne se plaint pas. Le gouvernement dit dans quelle situation et pourquoi ça prend plus de temps que ce qu'on a pu penser au moment, effectivement, de l'élection de François Hollande. Je crois que c'est aujourd'hui très honnête de dire les choses. C'est pas chercher des excuses. Vous voyez bien effectivement que personne ne cherche d'excuses, que personne n'est aujourd'hui à la recherche de notoriété. Vous avez vu, on en parlait tout à l'heure, quel était le résultat des différents sondages. On est au travail, on est concentré, on veut être efficace, on veut apporter des réponses et on est tous mobilisés aux Français. Ça prend plus de temps, la situation est extrêmement difficile, mais il n'y a pas de perte de mobilisation. Et encore une fois, je crois que l'équipe France, elle est au travail derrière Manuel Valls et c'est ça le plus important.
Alors cette France ou ce gouvernement auquel vous appartenez se situe clairement en Europe. Votre formation politique est euro-enthousiaste, pourrait-on dire, fédéraliste, etc. Lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, l'Europe réunit le plus de thèmes d'eurosceptiques, voire d'anti-européens, que le Front National y fait des scores, l'extrême droite y fait des scores importants en Grande-Bretagne, en France ou ailleurs, cette idée, pourquoi est-ce que cette idée ne marche plus ? Elle n'est pas assez portée, elle n'est pas assez revendiquée dans le discours politique, le vôtre peut-être aussi.
Peut-être, il y a un repli. Il y a un repli véritable, effectivement, de l'ensemble des Européens, une perte de confiance. Ça n'empêche pas les radicaux de gauche, encore la fin de semaine dernière, de réaffirmer que l'Europe fédérale serait sans doute la meilleure solution. À un moment donné, on s'est arrêté à mi-parcours, et c'est sans doute une erreur. Et je crois qu'il faudra aller plus loin. C'est pour ça d'ailleurs aussi que nous voulons revoir le mode d'élection des Européennes en France pour qu'il y ait une véritable mobilisation et derrière qu'on aille vers véritablement une Europe fédérale. Nous continuons effectivement à avoir cette vision des choses, comme nous continuons à parler de la 6e République, comme c'était le cas la semaine dernière, avec beaucoup d'humour sans doute sur la suppression du Premier ministre, mais beaucoup de réflexion aussi, et les radicaux ont à apporter aujourd'hui sur la scène politique et sur les prochaines échéances qui vont nous rassembler.
Et quand vous voyez qu'aujourd'hui Bruxelles...
Dernière question, réponse courte.
Quand vous voyez qu'aujourd'hui Bruxelles menace possiblement de recaler le budget de la France, est-ce que vous êtes favorable à assumer un rapport de force avec Bruxelles et avec l'Allemagne, comme le prône certains gouvernements ?
On a un devoir de responsabilité et de transparence, que ce soit avec les Français ou que ce soit avec l'Europe, et on peut faire à la mesure de nos moyens et pas plus.
Merci Madame Girardin d'avoir été l'invitée d'International aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame.
Merci.
Ouais, gros.
Allez, où, Joséphine ?
Allez, laissez-moi de toi.
Ah bon, c'est comme ça.